quand je vois la composition du gouvernement, bon, il y a un élément qui me frappe, c'est que près des trois quarts des ministres n'avaient jamais exercé une fonction ministérielle au Congo. Ce qui montre quand même une volonté de renouvellement de la classe politique. Par ailleurs, la répartition des portefeuilles, étant donné la composition officielle du Parlement, cela ne me paraît pas anormal que la plateforme de Kabila, donc le Front commun pour le Congo, la FCC, a environ 2/3 des portefeuilles par rapport au, à 1/3 pour la plateforme de Tshisekedi, le cap pour le changement, le cash.
Que laisse présager cette cohabitation inédite?
Il y a beaucoup de forces au Congo, en particulier évidemment au sein du Front commun pour le Congo, qui a quand même géré le pays avec le président Kabila pendant de très nombreuses années. Dans quelle mesure les protagonistes principaux de cette plateforme électorale-là accepteront un certain nombre de mesures qui sont inévitables, notamment dans le domaine fiscal, mais également dans le domaine de la lutte contre la corruption, et donc en d'autres termes, une mise en danger, si je peux m'exprimer ainsi, des privilèges accumulés pendant de nombreuses années. Voyons quelles seront les résistances. Est-ce que le président Tshisekedi sera peut-être de commun accord avec son prédécesseur Kabila, parce que jusqu'à présent, ils, en tout cas, font semblant de s'entendre assez bien, dans quelle mesure il sera possible de mener une politique qui serait quand même une politique tout à fait différente de celle qui a été menée sous la présidence de Joseph Kabila.
Le Premier ministre a promis de se mettre très rapidement au travail. Quelles sont les principales priorités?
Il faut évidemment d'abord reconstruire un État fonctionnel au Congo. Hein. Empiriquement, cet État est déliquescent, ne remplit pas un nombre important de fonctions de souveraineté qu'un État se doit d'assumer, notamment le contrôle par l'État de l'ensemble de son territoire, mais également la fiscalité publique, parce qu'au Congo, la fiscalité est en grande partie privatisée et criminelle, il faut bien le dire. Également la justice, hein, pas seulement l'état de droit dans le sens des droits humains, mais également un système judiciaire, par exemple, qui n'est pas corrompu. Et ensuite, évidemment, il y a un travail énorme à faire pour mettre à niveau les infrastructures de ce pays, sinon il sera très difficile de consolider quoi que ce soit.
Concernant l'aspect plus conjoncturel, la principale urgence est la lutte contre l'épidémie d'Ebola, mais aussi la nécessité de rétablir la sécurité, notamment dans l'est du pays.
Oui, c'est un très grand problème. Hein. Cette partie du pays échappe en grande partie au contrôle de l'État depuis 30 ans maintenant. Hein. Il y a aujourd'hui, chaque jour, des assassinats, des massacres dans l'Ituri, au nord Kivu, également dans une moindre mesure au sud Kivu. Cela d'abord provoque des drames humanitaires. Hein. Beaucoup de gens sont tués, mais beaucoup de gens sont également déplacés dans des situations déplorables. Mais cela rend même beaucoup plus difficile la lutte contre l'Ebola, par exemple, dans cette région. Donc ça, c'est probablement la priorité, des priorités pour le président Tshisekedi et son nouveau gouvernement.
Donc de nombreux chantiers et une phase cruciale qui s'ouvre pour le pays.
Tout à fait. Et lorsqu'il a pris le pouvoir ou qu'il a été investi, le président Tshisekedi a publié un plan de 100 jours, hein, les 100 premiers jours. Bon, on a déjà dépassé ces 100 jours, mais ce plan reste valable. Je pense que dire qu'on allait réaliser ça en 100 jours n'était pas réaliste, et je pense que Tshisekedi le sait très bien. Mais quand je lis ce plan-là, et notamment un certain nombre de mesures dans le domaine de la lutte contre la corruption, les libertés publiques, la reconstruction étatique, etc., les principes sont bons. Et donc c'est sur ça que le président et son gouvernement devront travailler maintenant.